Tout à l'heure, vous évoquiez la question du risque nucléaire pour dire que celui-ci vous paraissait mesuré et qu'il n'y avait pas véritablement de raison pour vous d'être inquiet. Est-ce que la décision de Donald Trump de remettre en service le charbon, de vanter les mérites du magnifique charbon propre, je cite les mots de Donald Trump, le magnifique charbon propre américain, est-ce que cela vous inquiète plus, Jean-Marc Jancovici?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis, c'est le système le plus parlementaire au monde dans les démocraties et que l'exécutif a très peu de pouvoir. En fait, l'essentiel du pouvoir aux États-Unis appartient au Parlement, appartient aux États fédérés. Ce que fait le président peut avoir de l'influence dans quelques domaines bien précis, mais il y a un domaine dans lequel le président n'a aucun pouvoir, c'est le prix du charbon versus le prix du gaz. Mmh. Or, il se trouve que les États-Unis, c'est un pays... Alors, les États-Unis possèdent les premières réserves de charbon au monde. Donc, ils ont potentiellement la possibilité de mettre beaucoup, beaucoup de dioxyde de carbone dans l'atmosphère avec ce charbon. Par ailleurs, il faut savoir que le charbon est essentiellement une énergie domestique. Vous avez moins de 10% du charbon vapeur, celui qui sert à faire de l'électricité, qui passe une frontière dans le monde, entre pays de production et pays de consommation. Donc c'est une énergie qui voyage peu. Donc les États-Unis ont plein de charbon, mais il se trouve que depuis 10 ans, la place du charbon dans la production électrique, parce que c'est essentiellement à ça que ça sert, le charbon, est en train de baisser au profit du gaz, parce que avec le gaz de Rochemer, qu'on appelle en France le gaz de schiste, qui s'est développé, le prix du gaz est extrêmement bas aux États-Unis depuis maintenant une dizaine d'années, et c'est plus rentable de faire de l'électricité avec du gaz qu'avec du charbon. Donc le charbon est en perte de vitesse aux États-Unis, et les gesticulations de Trump en ce qui concerne le charbon ne sont là que pour rassurer son électorat qui vient dans les États charbonniers, mais Trump n'a strictement aucune espèce d'influence sur ce qui se passe en ce qui concerne le charbon.
Mais alors, est-ce que ça devrait quand même nous faire peur? Est-ce que le fait d'utiliser plutôt du charbon que du gaz de schiste, Jean-Marc Jancovici, est-ce que ça, par exemple, ça représente un risque pour vous?
Alors, ça dépend ce qu'on appelle un risque. Le changement climatique est un risque. Pour donner un ordre de grandeur, il faut savoir que la différence de température moyenne qu'il y a entre la dernière ère glaciaire, où la France ressemblait au nord de la Sibérie actuelle, et le monde que nous avons trouvé en entrant, j'ai envie de dire, c'est-à-dire le monde pré-industriel il y a un siècle et demi, l'élévation de température moyenne sur Terre n'a été que de 5 degrés. Donc avec 5 degrés de hausse de température moyenne, vous transformez la France qui ressemblait au nord de la Sibérie actuelle en ce qu'elle est aujourd'hui. L'océan est monté de 120 mètres avec 5 degrés de hausse. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le changement climatique a le potentiel de tuer des milliards de gens, je dis bien des milliards de gens, et il a le potentiel de déclencher la guerre partout sur Terre. Le GIEC, dans un rapport qui a été rendu il n'y a pas très longtemps, qui est sur changement climatique et Terre, disait qu'à partir de 3 degrés de hausse de la température moyenne, il y aura de l'insécurité alimentaire généralisée sur Terre. Et l'insécurité alimentaire déclenche une insécurité politique partout, parce que vous connaissez le vieux dicton, ventre affamé n'a point d'oreille, et il y a mille exemples, de ce que je viens de dire sur Terre. Donc le changement climatique a le potentiel de rendre la vie de vos enfants, je ne sais pas si vous en avez, particulièrement infernale. Donc tout ce qui contribue à la hausse des émissions de CO2 a le potentiel de contribuer à rendre la vie des gens particulièrement infernale. Alors le fait de consommer plus de charbon y contribue, donc à l'évidence ça a ce potentiel. Par contre, le fait de remplacer du charbon par du gaz à consommation constante, mm-hmm. j'insiste sur le fait que c'est mm-hmm. à consommation constante, par contre ça fait baisser les émissions de CO2. Donc le grand paradoxe de ce qui est en train de se passer aux États-Unis en ce moment, c'est que le forage de gaz de Rochemer, que tout le monde considère être une catastrophe environnementale, sur le strict plan du CO2, c'est plutôt une bonne affaire.
Mais le problème, c'est, comme vous venez de le dire, que cela a d'autres contreparties. Qu'est-ce que vous en pensez de ces contreparties pour le gaz de schiste?
Quelles autres contreparties?
Eh bien, par exemple, les pollutions provoquées par le gaz de schiste.
Mais quelle pollution?
Alors, différents types de pollution. Il y a la pollution qui est liée à ce que l'on injecte dans la terre pour extraire le gaz de schiste.
Ça, c'est pas une pollution très enquiquinante. En l'occurrence, ce qu'on met dans la terre pour extraire le gaz de schiste, c'est de l'eau avec quelques additifs qui sont de l'ordre de l'eau de Javel qu'on met dans la piscine et du produit de vaisselle. On a un peu de, et des gélifiants, qu'on trouve dans les cosmétiques.
Mini tremblements de terre, ce sont de tout petits tremblements de terre provoqués par le gaz de schiste.
Alors, dans les tremblements de terre, il y en a un qui est provoqué par du gaz, pas de schiste, qui est beaucoup plus rigolo, mais c'est aussi des mini petit tremblement de terre.
Les Hollandais sont dangereux, un petit tremblement.
Par rapport à ce que je viens d'évoquer sur le changement climatique, où c'est totalement secondaire, et par rapport aux 5 millions de gens qui meurent chaque année des accidents de voiture, c'est totalement secondaire, et par rapport aux gens qui meurent chaque année du tabac et de l'alcool, c'est totalement secondaire. Donc c'est pas
On peut pas se prévaloir quand même des gens qui meurent du tabac pour valider les gaz de schiste, Jean-Marc.
On peut se prévaloir du fait que quand on a que 24 heures par jour et que les moyens budgétaires qu'on a, on choisit ses priorités. Donc une manière on peut pas résoudre tous les problèmes en même temps. Donc une bonne façon de gérer ses priorités, c'est de se dire si je ne gère qu'un seul problème, c'est lequel. Ensuite, si je n'en gère qu'un deuxième derrière, c'est lequel, etc. Et les tremblements de terre, alors le gaz de schiste a plein d'inconvénients, mais les tremblements de terre provoqués par le gaz de schiste, ça n'est pas quelque chose qui est... Vous savez, la géothermie, qui est une énergie renouvelable, provoque aussi des tremblements de terre quand on met des installations.
Continue, par exemple, pour extraire du gaz de schiste, il faut des norias de camions, puisqu'il
oui,
faut
alors
apporter
ça, contre,
de l'eau.
Ça, par contre, c'est un vrai inconvénient. Mais je ne suis pas en train de dire que les gaz de schiste, c'est l'Eldorado. Je suis juste en train de vous dire qu'un des effets paradoxaux du développement du gaz de schiste aux États-Unis, c'est que ça a contribué à faire baisser les émissions de CO2.